Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité française.
Charlotte de Rouen.
Les ZFE, les zones à faibles émissions, supprimées par les députés. La mesure était pourtant destinée à lutter contre la pollution dans les grandes villes françaises en interdisant la circulation des véhicules les plus polluants. En visite en Nouvelle-Calédonie, Marine Le Pen dit vouloir participer aux discussions convoquées mi-juin par Emmanuel Macron sur l'avenir de l'archipel. La chef de file des députés RN dit vouloir défendre sa méthode et en profite aussi pour réaffirmer ses ambitions présidentielles. Les femmes, toujours moins nombreuses que les hommes dans les écoles d'ingénieurs, c'est le résultat d'une étude qui vient de paraître. Et puis à Roland-Garros, Gaël Monfils vient d'être éliminé par le Britannique Jack Draper. On retrouvera Eric Mamrut qui a suivi pour nous cette rencontre. De son côté, Richard Gasquet s'est lui aussi retiré sur une défaite face au numéro 1 mondial. Le tennisman prend sa retraite après 23 ans de carrière.
24 heures en France.
À suivre également dans la prochaine demi-heure, retour sur le parcours exceptionnel de Jeanne Lanvin, pionnière du luxe à la française. Elle a donné son nom à la maison Lanvin. Et puis dans le journal de l'Outre-mer, le reflux de l'épidémie de chikungunya à La Réunion. Les indicateurs sont à la baisse.
RFI.
Elles existaient à Paris et dans d'autres grandes villes, les ZFE, les zones à faibles émissions, mises en place pour diminuer la pollution de l'air. Le dispositif a tout simplement été supprimé mercredi par les députés. La mesure, initiée en 2019, restreignait la circulation de certaines voitures thermiques les plus polluantes des centres-villes. Mais le système a toujours été critiqué par une partie de la classe politique. Et mercredi soir, à l'Assemblée nationale, alors que les élus se prononçaient sur la loi sur la simplification économique, Victorien Virume, plusieurs partis se sont alliés pour voter un amendement qui supprime donc purement et simplement les ZFE.
Cet amendement anti-ZFE vient de l'extrême droite, le député RN Pierre Meurin.
13 millions de Français potentiellement exclus des grandes villes pour aller au boulot, pour aller se soigner, pour emmener leurs enfants à l'école. Rien ne va dans les ZFE.
Mais le parti à la flamme n'aurait pas remporté cette victoire dans l'hémicycle sans un large soutien de la droite et d'une partie de la gauche. L'écologie ne doit pas se faire sur le dos des classes populaires, défendent les insoumis. Un argumentaire qui ne tient pas pour l'écologiste Nicolas Bonnet.
Elles n'ont pas été mises en place pour embêter les gens. Elles ont été mises en place pour traiter un problème de santé publique, le fait que la qualité de l'air est très mauvaise dans de nombreuses grandes villes.
Les zones à faible émission divisent également le gouvernement. Quand le ministre des Transports estime que les ZFE montent les Français les uns contre les autres, la ministre de l'Écologie, Agnès Pannier-Runacher, défend une politique de santé publique.
C'est plusieurs milliers de pathologies, de maladies graves qui sont liées à cette pollution de l'air et qui sont évitées grâce aux zones à faible émission.
Trouver l'équilibre entre écologie et économie, un débat qui rappelle celui de cette semaine dans l'hémicycle sur la loi dite Duplomb, réclamée par les syndicats agricoles mais qui permet la réintroduction de pesticides nocifs pour la santé et l'environnement.
Victorien Guillaume, en Nouvelle-Calédonie, après l'échec des négociations menées par le ministre des Outre-mer Manuel Valls, l'exécutif cherche à mettre à nouveau les différents acteurs à la table des discussions. Des consultations réunissant indépendantistes et non-indépendantistes ont été convoquées mi-juin par le président Emmanuel Macron. Des discussions sur l'avenir institutionnel de l'archipel auquel Marine Le Pen dit vouloir participer. La chef de file des députés RN est en visite cette semaine en Nouvelle-Calédonie. Elle veut défendre sa méthode, dit-elle, pour résoudre les tensions sur place. Elle en profite aussi pour réaffirmer ses ambitions présidentielles et son autorité sur Jordan Bardella, parfois présenté comme un plan B si jamais elle était empêchée de se présenter en 2027, Raphaël Delvolvé.
Depuis Nouméa, Marine Le Pen appelle le président Macron à la faire participer aux prochaines discussions entre loyalistes et indépendantistes à la mi-juin à Paris.
Je suis candidate à la présidentielle et par conséquent, demain, je peux être amené, si je suis élu, à avoir une part active dans les décisions qui pourraient être prises.
La chef des députés RN saisit l'occasion pour rappeler ses ambitions, même contrariées par la justice, mais aussi pour faire prévaloir sa candidature sur celle de plus en plus envisagée de Jordan Bardella. Voici ce qu'elle répond. quand on lui demande s'il doit participer lui aussi aux consultations calédoniennes.
Je suis pas sûr que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on partage nos talents, dirons-nous.
À 17 000 km de là, l'intéressé en déplacement dans le sud de la métropole assure n'y voir ni tacle ni recadrage.
Compte tenu du fait qu'elle se trouve en Nouvelle-Calédonie et qu'elle est investie sur ce sujet, elle est aujourd'hui la mieux placée pour représenter notre mouvement dans ces consultations.
Se sentant toutefois obligé de préciser.
Je vous rassure, je connais très bien les dossiers ultramarins et notamment le dossier de la Calédonie française.
Façon de rappeler que lui aussi est à la hauteur des plus hautes fonctions.
Raphaël Delvolvé du service politique. Le gouvernement français veut interdire la cigarette à la plage, dans les parcs ou encore auprès des écoles. Et ce, dès le 1er juillet, la ministre de la Santé l'annonce ce soir dans une interview chez nos confrères de Ouest France. Ceux qui ne respecteraient pas cette interdiction seront passibles de 135 euros d'amende. Les femmes toujours sous-représentées dans les écoles d'ingénieurs. C'est ce que révèle une étude de l'Institut des politiques publiques qui vient d'être publiée. École polytechnique, école des mines, centrale Supélec. En France, plus de 200 écoles d'ingénieurs peuplent le paysage de l'enseignement supérieur. Chaque année, elles accueillent plus de 40 000 étudiants. Mais les femmes, Sylvie Coffi, restent toujours moins nombreuses que les hommes.
Jusqu'au lycée, tout va bien. Les filles ont les meilleurs résultats scolaires. Au baccalauréat, 59% obtiennent une mention très bien contre 47% pour les garçons. Mais ensuite, la tendance s'inverse pour ces étudiantes qui veulent entrer dans les grandes écoles d'ingénieurs. Léa Doucet, dans cette étude, parle d'un effet classe préparatoire.
On observe réellement une inversion et un accroissement des écarts de performance entre les hommes et les femmes tout au long de ces classes préparatoires. Donc c'est ça qu'on appelle cet effet classe préparatoire parce que à l'inverse, lorsqu'on s'intéresse aux écoles d'ingénieurs qui recrutent directement après le baccalauréat, donc qui pour une grande partie prennent en considération les dossiers scolaires notamment, on observe à l'inverse une plus grande représentation des filles et notamment parmi les meilleures de ces écoles.
Il n'y a pas une, mais plusieurs explications.
Ça pourrait venir de différentes façons, l'environnement, le côté compétitif, les enseignements, le fait d'être en minorité, de se sentir moins à l'aise. En tout cas, notre étude ne permet pas d'expliquer précisément les raisons de cet écart qu'on observe.
Pour réduire ces écarts, il y a quelques pistes.
Plus de coaching pour les étudiantes, un meilleur accompagnement pour éviter ce décrochage qu'on observe des filles par rapport aux garçons.
Le gouvernement vise pour 2030 un effectif d'au moins 30% de femmes dans les classes préparatoires scientifiques.
Sylvie Coffi, ils sont à peu près 5000 à attendre une reconnaissance de leur diplôme. Les médecins, sages-femmes, dentistes ou encore pharmaciens qui exercent sur le territoire français, mais avec un diplôme obtenu à l'étranger, hors Union européenne. Ils vont désormais voir leur parcours reconnu via une procédure interne. Ce jeudi, le ministère de la Santé a publié 2 décrets en ce sens. Il l'attendait depuis longtemps.
24 heures en France.
En session de nuit sur le court principal de Roland-Garros, Gaël Monfils s'est finalement incliné face au 5e mondial, le Britannique Jack Draper. Eric Mamrut, vous suivez cette rencontre pour RFI, vous avez suivi cette rencontre tout au long de la soirée. Le Français s'est donc accroché, mais ça n'a pas suffi. Le match s'achève sur ce score, 6-3, 4-6, 6-3, 7-5.
Effectivement, 7-5 dans cette 4e manche au cours de laquelle Gaël Monfils a pourtant mené 5-2, mais Jack Draper en face, eh bien, a montré de sacrées qualités mentales, car le public, les 15 000 spectateurs du cours central Philippe Châtrier ont mis une ambiance complètement folle ce soir. Ils ont mis un volume assourdissant et le pauvre Jack Draper a plié à certains moments, mais il a résisté, il a joué un tennis véritablement magnifique, très agressif, très puissant du fond du court avec sa patte gauche également. Il a réussi à renverser le cours de cette 4e manche, alors qu'il a même sauvé 2 balles de 7 en faveur de Gaël Monfils à 5 jeux partout. Un Gaël Monfils qui s'est étiolé aussi physiquement, un long combat donc de plus de 2-3 heures, un sacré spectacle une nouvelle fois, signé Gaël Monfils, comme il y a quelques jours face à Hugo Delieng. Cette fois, ça s'est mal terminé, mais il aura enthousiasmé le public et montré de sacrées qualités encore. lui qui a plus de 38 ans passés. Bon, c'est terminé également pour Hugo Humbert, pour Pierre Hugerbert, pour Corentin Moutet, seul qualifié français chez les hommes, Arthur Fils. C'est fini également pour Léolia Jean-Jean chez les femmes. Il y aura deux Françaises qualifiées au troisième tour, Loïse Boisson et Elsa Jacquemot, qui s'affronteront au prochain tour. Eh bien, l'une d'entre elles sera en huitième de finale.
Éric Mamrutz, en direct de Roland-Garros pour RFI, et l'adversaire du vainqueur, hein, Jack Draper, est déjà connu. C'est João Fonseca, la sensation brésilienne de 18 ans qui s'est hissée au troisième tour aux dépens du français Pierre-Hugues Herbert. Vous en parliez. Et puis, la fin du deuxième tour ce jeudi à Roland-Garros a aussi marqué la fin de la carrière de Richard Gasquet. Le vétéran français de presque 39 ans a perdu son dernier match face au numéro 1 mondial Yannick Sinner. Le public lui a rendu hommage, Richard Gasquet, qui se retire donc après 23 ans de carrière. RFI minuit 11 à Paris. Une page se tourne aussi chez Dior. La créatrice italienne Maria Grazia Chiuri quitte ses fonctions de directrice artistique des collections femmes de la célèbre maison parisienne. Elle a été la première femme à occuper ce poste, Edmond Salaca.
En 9 ans, Maria Grazia Chiuri a réussi à imposer sa marque et sa vision de la femme Dior. Très vite, c'est la dimension féministe qui a occupé une place centrale dans son travail, dès son premier défilé d'ailleurs, en 2016. À l'époque, elle avait envoyé sur le podium des t-shirts arborant en lettres noires le message suivant « Nous devrions tous être féministes », référence à l'essai du même nom de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Par la suite, la styliste n'a cessé de réaffirmer ce message en ne sollicitant par exemple pour enrichir ses collections que des femmes ou en ne confiant chaque décor de défilé qu'à une artiste féminine. Le bruit de son départ courait depuis plusieurs mois. Certains lui ont reproché son manque de créativité. Elle a toujours revendiqué une approche rationnelle du vêtement, la priorité étant selon elle qu'il soit facile à porter et confortable. Mardi dernier, la créatrice avait présenté à Rome, sa ville natale, sa dernière collection lors d'un défilé dans les jardins de la Villa Albani, un palais au classique, événement spectaculaire qui s'est conclu sous les applaudissements nourris des invités.
Edmond Salaca du service culture de RFI.
24 heures en France. Charlotte de Rouen.
Et on continue à parler mode et création sur RFI avec la doyenne des maisons de couture parisiennes, la maison Lanvin, et celle qui l'a créée, Jeanne Lanvin, dans un essai biographique. Jérôme Picon redonne vie à cette pionnière du luxe à la française en retraçant une destinée discrète mais visionnaire. Jérôme Picon est au micro d'Elisabeth Le Carré.
Jérôme Picon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art, spécialiste entre autres de Marcel Proust et de Victor Hugo. Qu'est-ce qui vous a conduit à Jeanne Lanvin ?
L'opportunité de travailler sur des archives qui sont considérables, quasi intactes, les archives de sa maison de couture, et qui n'avaient pas été jusqu'alors tellement visitées.
Et est-ce que c'est le style aussi si particulier que vous allez nous décrire de Jeanne Lanvin qui vous a donné l'envie de raconter l'histoire incroyable de cette femme et de sa maison de couture ?
Jeanne Lanvin s'est adressée à un public fortuné mais assez large puisqu'elle a habillé aussi bien des jeunes filles que des femmes, des enfants, des hommes. Elle a produit des parfums, elle a diffusé une ligne de mobilier, de décoration dans le milieu des années 20, extrêmement luxueuse. Paris était une vitrine de la mode et de l'élégance en général, et Jeanne Lanvin a essayé de s'inscrire, et elle y est parvenue un petit peu dans tous les registres de la mode de son époque.
Est-ce que c'est en ce sens, Jérôme Picon, qu'on pourrait dire que c'est une pionnière de la couture contemporaine ? Au
Absolument.
Même titre que Schiaparelli ou Chanel ?
Peut-être même plus encore que Schiaparelli ou Chanel, parce qu'elle réussit à donner, notamment au cours des années 20, une expression absolument générale à cette espèce d'ambition d'occuper tout le terrain.
Donc Jérôme Picon, c'est une vraie femme d'affaires.
C'est absolument une femme d'affaires, et qui accumule d'ailleurs une fortune tout à fait considérable, parce que c'est non seulement une femme d'affaires dans la mode, mais en plus c'est une investisseuse hors pair.
Jérôme Picon, est-ce que c'est facile d'écrire la biographie de Jeanne Lanvin ? Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une masse de documents, mais qu'elle est elle-même assez difficile à cerner finalement.
Tout à fait. La part peut-être la plus palpitante dans sa personnalité, la plus vibrante, c'est la relation qu'elle entretient avec sa fille, qui est en vérité à la fois son modèle, son idéal, sa passion dans la vie, et la dédicataire de tout son œuvre. C'est sa fille qui portera finalement ses modèles, c'est sa fille qui sera un argument publicitaire pour sa marque.
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Jeanne Lanvin ? Sa maison est l'une des plus anciennes du monde.
Sa maison existe encore sous le nom de Lanvin. Il y a eu quelques heures très brillantes ces dernières années, notamment lorsque Albert Elbaz en a assumé la direction artistique de la création. Il reste un certain nombre de produits qui continuent d'être sur le marché, comme par exemple le parfum Arpège, qui a été créé en 1927 pour les 30 ans de Marie-Blanche de Polignac, et qui existe toujours, même si les éléments qu'il compose ont été revus en fonction de ce qu'on trouve maintenant dans la chimie des parfums. Il reste un petit peu de ce rêve de luxe qu'elle a réussi très longtemps à incarner, à orienter. Et voilà, il reste une des plus brillantes heures, finalement, de l'histoire de la couture parisienne.
Jérôme Picon, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Jérôme Picon et son essai biographique, de Jeanne Lanvin, au micro d'Elisabeth Le Quéret du service culture de RFI. De jeunes malades, des enfants handicapés qui rencontrent le temps d'une journée des champions et des championnes. C'est l'objectif de la journée de l'évasion. L'édition 2025 a eu lieu mercredi au Stade de France. Une journée placée sous le signe des super-héros et qui a réuni des centaines d'enfants. Reportage Rambeng.
Ils sont contents parce que ça leur fait sortir de l'hôpital.
Aurélie, infirmière au service des pédiatries à l'hôpital Raymond Poincaré en région parisienne, accompagne des enfants lourdement handicapés pour profiter de la journée évasion.
Ça leur fait voir un autre environnement et puis là c'est le Stade de France. Ils sont contents, quoi. Ils sont épanouis de cette journée.
Yousra Laghi, 12 ans, est en fauteuil roulant. Elle vient juste de remporter une partie de tennis. La belle prestation des champions paralympiques lors des JO de Paris 2024 a fait son effet chez elle.
Oui, vraiment. Et ils sont très très forts malgré leur handicap et c'est vraiment bien.
T'as envie de faire comme eux ?
Oui, peut-être j'y participerai à l'avenir.
Fanny Mérard, éducatrice spécialisée, accompagne Yousra et ses camarades venus d'Aulnay-sous-Bois. Pour elle, c'est important que des enfants malades puissent profiter de la journée évasion.
Oui, très important pour qu'ils puissent se sentir au même niveau que tous les autres joueurs et qu'ils puissent découvrir des sports qui sont adaptés à leurs besoins et pour qu'ils puissent un petit peu penser à autre chose que le quotidien. Et honnêtement, c'est un plaisir de les voir s'amuser, de sourire.
Au stand de football, des enfants ont eu la chance de jouer avec Arsène Wenger, ancien footballeur professionnel et parrain de l'événement.
C'est beau de voir leur bonheur et de les voir jouer, de pouvoir s'éclater ensemble. Et eux, ce sont les héros du jour parce qu'ils sont face très jeunes souvent à la maladie et de pouvoir en sortir, ils ont un esprit de combattant extraordinaire.
Pour le champion paralympique Kylian Portal, médaillé en natation au JO de Paris 2024, il est important d'être là pour la transmission.
Je pense que c'est aussi dans notre devoir de transmettre aux jeunes, aux enfants qui ont des capacités réduites ou non. Hein. Voilà, y a plein de jeunes qui vont, je pense, avoir envie de continuer dans des sports. Ils vont découvrir des sports et je pense qu'il y en a certains qui vont vouloir s'inscrire, que ce soit du foot, du tennis de table, de l'escalade.
Membre de l'association Premier de Cordée, docteur Mathieu Pélanche est pédiatre et médecin du sport. Cette journée évasion peut, selon lui, créer des vocations.
On parle souvent en fait, du sport handicap, on en a encore plus parlé depuis les JO, mais là on sait que forcément ça peut créer des vocations chez certains jeunes qui, à l'inverse de se sentir pas capables, là vont se sentir capables de dépasser leurs limites.
Une impulsion qu'avaient déjà donné les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et qui perdure.
Reportage d'Aram Beng, RFI, minuit 19 à Paris.
Le journal des Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, des lycéens guadeloupéens récompensés à Paris par l'ambassade d'Australie. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. C'était ce lundi, une classe de seconde du lycée Bainbridge a reçu le prix Sadlier-Stokes. Les jeunes Guadeloupéens ont réalisé un court-métrage sur les liens entre Guadeloupe et Australie pendant la Première Guerre mondiale, une production saluée par les autorités australiennes. Reportage Emma Jaconelli.
Tirés à quatre épingles, ils étaient une dizaine de la classe de seconde 2 du lycée Bainbridge à l'ambassade d'Australie ce lundi après-midi. Sous les yeux ébahis de leur professeur d'histoire-géographie, à l'initiative de leur participation au concours, Lucille Mirzika.
Il faut dire que le projet que nous avons porté était quand même un projet original. Voilà, une histoire d'amitié entre un soldat guadeloupéen et un soldat australien sur le front occidental durant la bataille de la Somme en 1916.
Au-delà du prix, les élèves retiennent la découverte du travail en équipe. Acteurs, caméramans, chacun avait son rôle dans la conception du projet vidéo. Fiona et Joali étaient scénaristes.
Je pense qu'on a tous mis un petit peu de nous-mêmes dans ce film, donc je suis très contente.
C'est un message qu'on voulait faire passer, c'est-à-dire que malgré la différence de pays, de couleur, c'était pas un problème, ça a été une amitié forte.
Les élèves et Madame Mirzika ont réalisé le projet sans aide extérieure, en tournant les images avec leur téléphone portable. C'est aussi bien la qualité technique que symbolique que le jury australien a souhaité récompenser. L'ambassadrice d'Australie en France, Lynette Wood.
Nous avons trouvé l'idée de ces jeunes Guadeloupéens si originales, surtout en tant qu'Australiens. À cette période de la Première Guerre mondiale, nous étions une colonie britannique et la Guadeloupe était encore une colonie française. De penser à la participation des soldats australiens et guadeloupéens en Europe, en faire le récit était une manière géniale de penser cette compétition.
Hasard du calendrier, l'annonce par l'Élysée d'une nouvelle réunion de négociation à Paris entre indépendantistes et loyalistes a coïncidé avec la présence en Nouvelle-Calédonie de deux responsables nationaux de premier plan, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le vice-président des Républicains, François-Xavier Bellamy. L'occasion était bien sûr trop belle pour la laisser passer. Les deux leaders de droite ont immédiatement réagi dans des discours sans ambiguïté. Nadine Goapana.
Tous deux sont critiques sur la méthode déployée pour mener à bien les discussions sur l'avenir institutionnel. L'eurodéputé LR, François-Xavier Bellamy, les qualifie même de trahison démocratique et a délivré hier soir, mercredi, lors d'une réunion publique à l'hippodrome Henri Millard, ce message du tout nouveau président du parti LR, Bruno Retailleau. Tout accord qui fragiliserait la Nouvelle-Calédonie française serait sanctionné immédiatement par leur départ du gouvernement de la France, car le choix des Calédoniens du non aux trois référendums devrait être respecté sans ambiguïté. Marine Le Pen, elle, tente d'incarner l'alternative à Emmanuel Macron. La chef de file du groupe RN à l'Assemblée nationale critique l'obsession institutionnelle du gouvernement, d'une méthode utilisée depuis 30 ans et qui n'est pas la bonne. Elle propose une toute autre stratégie, axée sur le développement économique et social de l'archipel plutôt que sur une réforme institutionnelle. Ces pourparlers politiques devraient donc impliquer autour de la table les acteurs économiques autour du prix de l'énergie, la diversification agricole, l'avenir de la filière nickel ou encore le développement d'une base maritime. Objectif, réfléchir à ce que sera la Nouvelle-Calédonie dans 30 ans et ce qui permettra aux parties prenantes de cheminer ensemble.
Un chiffre pour terminer, 15 morts, c'est le bilan, évidemment encore provisoire, de l'épidémie de chikungunya à l'île de la Réunion. 3 nouveaux décès dus à la maladie sont en effet venus s'ajouter aux 12 déjà connus. Triste bilan donc, même si les derniers chiffres publiés par Santé publique France confirment une autre réalité plus réjouissante. L'épidémie est décidément en train de s'affaiblir. Lise Dumont.
Avec 3800 consultations entre le 19 et le 25 mai, pour la quatrième semaine consécutive, les indicateurs de l'épidémie de chikungunya sont en baisse. Les consultations en ville ne représentent plus que 4,3% du volume de patients reçus par les médecins. Il était de 20% au plus fort de l'épidémie. Dans les hôpitaux aussi, c'est la décrue. Le bilan, par contre, s'alourdit. 3 nouveaux décès sont imputés au chikungunya. En tout, le bilan s'établit donc à 15 décès, tous concerne des personnes de plus de 65 ans présentant d'autres maladies. 36 autres cas sont toujours soumis à une enquête. 2 d'entre eux concernent des enfants de moins de 6 mois. La décroissance de l'épidémie à la Réunion se confirme donc, mais le virus et avec lui l'obligation de s'en protéger perdurent encore.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand et bonne soirée à vous également.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Et Caroline Paré parle sexualité aujourd'hui avec son invité. Comment avoir une sexualité épanouie avec la sexologue de l'émission Noël Caillarcy.
Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle sexualité avec vous, Noël Caillarcy. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes sexologue et on va vous retrouver pendant 50 minutes dans l'émission pour répondre aux questions des auditrices, des auditeurs avec comme thème du jour les astuces du quotidien pour une sexualité épanouie. Ça veut dire, Noël, faire preuve d'inventivité, de curiosité.
Oui, tout à fait. L'inventivité dans le couple permet de ne pas tomber dans la routine. Donc effectivement, c'est un sujet essentiel pour que le couple dure.
Alors la créativité dans cette relation à deux, ça peut se traduire par des changements matériels pour cette sexualité qui va se réinventer. Ces changements, ça peut être quoi ?
Ces changements, c'est tout simplement sur la posture, et je ne parle pas de posture sexuelle, mais sur la relation à l'autre, d'être dans une démarche positive et être curieux.
Et quand on dit « j'aimerais avoir des trucs pour rebooster ma relation », qu'est-ce que vous pouvez conseiller ?
Après, ça dépend ce qu'on me dit « rebooster ». Est-ce que c'est rebooster parce que je suis fatiguée et que du point de vue sexuel, je trouve que je suis peu performant ? Donc là, on peut avoir des conseils. Et après, c'est est-ce que c'est rebooster pour redonner du piment et de l'intérêt ?
Alors, changer des choses, mais rester toujours dans la communication et dans l'écoute.
Tout à fait. Et dans le consentement. Je ne fais pas pour faire plaisir, pour ne pas regretter par la suite. On est dans le partage.
Alors, tous ces points, toutes ces questions, on va les aborder ensemble avec, bien sûr, en direct, les auditeurs. 33 7 61 18 46 41. On se dit à tout à l'heure, Noël Caillarcy.
À tout à l'heure.
En direct, 9h10, rediffusion 1h10 temps universel.
Oui, à tout à l'heure Caroline. Merci d'avoir été avec nous pour cette demi-heure consacrée à l'actualité française. Dans quelques instants, la dernière édition d'Afrique Soir, ce sera avec Sophie Pouzrat. Mais d'abord, on fait un détour par la bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones arrache 117 points et revient à 42 216. L'indice du Nasdaq, lui, avance de 75 points et finit à 19 176. Deux nouvelles ont un peu rassuré les investisseurs aujourd'hui. Première nouvelle, l'invalidation par un tribunal fédéral spécialisé à New York d'une grande partie des droits de douane punitifs imposé par l'administration Trump à des dizaines de pays. Ce jugement, dans l'après-midi aujourd'hui, a été temporairement suspendu en cour d'appel, le temps que cette dernière se prononce sur le fond, probablement début juin. Dans tous les cas, cela n'empêche pas le président Trump d'utiliser les pouvoirs que lui confèrent d'autres lois pour imposer des sanctions commerciales. Toutefois, il ne disposera pas d'autant de flexibilité qu'il n'en dispose aujourd'hui en utilisant cette loi qui remonte à 1977. La guerre commerciale, en tout cas, n'est pas terminée, ce qui explique l'hésitation des investisseurs aujourd'hui. Seconde nouvelle importante, les résultats trimestriels meilleurs que prévus, annoncés par le leader des composants pour application d'intelligence artificielle, Nvidia. Nvidia voit son chiffre d'affaires trimestriel bondir de 69% en dépit des restrictions de ses ventes à la Chine. Le cours de Nvidia grimpe de près de 3%. Le rendement du T-bond à 10 ans retombe nettement et finit à 4,43. Le patron de la Banque centrale américaine a été reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump et ce dernier lui a rappelé que, de son point de vue, il se trompait en ne baissant pas son taux directeur. L'euro remonte à 1,1367. L'indice Dow Jones aujourd'hui grappille 0,3%. Le Nasdaq avance de 0,4%.
Émission spéciale. Appel sur l'actualité est à Abidjan. Juan Gomez.
En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle sera-t-elle apaisée ? Plusieurs figures de la vie politique sont inéligibles. L'opposition réclame un audit du fichier électoral et une réforme de la commission électorale. À 5 mois du scrutin, nous lançons le débat avec les représentants de plusieurs partis politiques.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Un jour au village, Penaï Traoré.
Quitter la capitale pour s'installer au village, c'est le choix d'Awa Sanoko et Isabelle Sigue-Senghor qui ont lancé une activité d'élevage grâce au projet Cœur Yakar. Cette semaine, nous leur rendons visite dans leur village, dans le Sine Saloun au Sénégal.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.